avec l'Observatoire sociopolitique diocésain. Aujourd'hui, nous retrouvons Olivier Drapé pour l'Observatoire sociopolitique. Bonjour Olivier, meilleurs vœux.
Oui, bonjour Alexandre, meilleurs vœux à tous les auditeurs également.
Et vous allez aujourd'hui nous parler de natalité.
Tout à fait, parce que l'INSEE a rendu public le 14 janvier, je crois, le dernier bilan de la natalité en France, et on constate que la natalité française est plus que jamais en berne, comme on dit. Il y a eu en 2024, en France, 663 000 naissances. Il y a une baisse continue depuis 2014 de la natalité. L'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, est de 1,62. C'est le plus bas niveau jamais atteint depuis la fin de la guerre de 14-18. Et c'est bien en deçà de ce qu'on appelle le taux de renouvellement des générations, qui est de 2,1 enfants par femme. Pour la France métropolitaine, donc en écartant les territoires d'outre-mer, ou les départements d'outre-mer, eh bien, c'est encore plus préoccupant, puisqu'il y a effectivement légèrement plus de décès que de naissances, ce qui fait dire à certains démographes que la France est entrée en dépopulation, sur la voie de la dépopulation. Alors, ça n'est pas une bonne nouvelle, et pourquoi est-ce même très préoccupant ? D'abord, d'un point de vue économique, il ne faut pas oublier, contrairement peut-être à certaines idées reçues qui remontent, on va dire, à la fin du 19e ou au 19e siècle, eh bien, la croissance dépend en grande partie du dynamisme démographique. Ou pour le dire autrement, la natalité est le principal facteur de croissance économique. Je cite un article du Monde qui cite lui-même un rapport de l'Institut Montaigne. Mathématiquement, plus un pays vieillit, plus la population en âge de travailler diminue, plus la croissance potentielle ralentit. Et puis d'un point de vue social, l'équilibre et par conséquent la survie de ce qu'on appelle le système de retraite par répartition, qui est notre système, dépend de la démographie. Aujourd'hui, on ne compte plus en France qu'à peu près 1,5 actif pour un retraité. Le rapport, il était de 4 cotisants par retraité il y a quelques décennies. Si cette tendance se poursuit, c'est-à-dire si on a de plus en plus de retraités, a priori ce sera le cas, et de moins en moins de cotisants, si la natalité ne se redresse pas, eh bien la faillite de ce système est inévitable. Ce serait bien dommage car c'est un système de solidarité entre les générations qui est assez conforme à ce que la doctrine sociale de l'Église préconise. Il y a un économiste qui s'appelle Nicolas Marques, il est directeur général de l'Institut économique Molinari, qui a écrit « Moins d'enfants, c'est moins d'actifs, moins de cotisants, moins de moyens pour financer les retraites, cela rend la situation inextricable ». Alors certains misent peut-être sur l'immigration pour combler les carences que je viens d'évoquer, mais il faut tout de même se rendre compte que cette solution peut être illusoire parce que l'immigration d'origine extra-européenne génère parfois beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en règle avec une main-d'œuvre généralement très peu qualifiée, un taux de chômage deux fois supérieur à celui des nationaux et puis un coût des prestations sociales, du logement, de la santé, des infrastructures nécessaires à leur accueil, avec des difficultés d'intégration et d'adaptation. Et enfin, indépendamment des considérations économiques, tout simplement un peuple qui n'assure plus le simple renouvellement des générations n'a pas d'avenir et finit par disparaître. Alors quelles sont les causes, avant de voir quels pourraient être les remèdes, de cette crise de la natalité ? Alors elles sont multiples et elles sont complexes. D'une façon générale, une cause majeure, dirait par exemple Jérôme Fourquette de l'IFOP dans ses ouvrages, et certainement la sécularisation et la déchristianisation, car l'Église a toujours encouragé et valorisé la famille et la maternité, mais l'évolution des mentalités et des mœurs qui découlent de cette déchristianisation a effectivement pour conséquence l'irruption de ce qu'on appelle la modernité, qui se caractérise d'abord et avant tout par certains individualismes, une recherche de confort matériel, de liberté, d'épanouissement personnel, qui sont parfois considérés comme incompatibles avec la vie de famille ou l'accueil et l'éducation des enfants. S'ajoute la maîtrise de la fécondité, bien entendu, tout se tient, contraception et avortement libre et gratuit, et un certain nombre de tendances peut-être plus récentes, comme par exemple le mouvement No Kids, comme on dit, pas d'enfants, qui s'est développé dans des milieux néo-féministes ou de l'écologie radicale depuis quelque temps et qui considère, à tort d'ailleurs, que l'enfant est une charge insupportable, une entrave à la liberté et une menace pour l'environnement. Comment dit, la parentalité, la maternité, les familles nombreuses a fortiori, n'ont pas bonne presse, c'est évident. Et on le voit très bien à travers un certain nombre d'émissions de télévision, par exemple. Une émission d'Arte, il n'y a pas si longtemps, avait pour intitulé « Des enfants, point d'interrogation, non merci, point d'exclamation ». Il y a d'autres causes, hein, c'est toujours très, très complexe et très délicat. Il y a bien entendu aussi les craintes et les incertitudes qui concernent l'avenir, crise climatique, guerre, en Ukraine ou ailleurs, pandémie, etc. Ça n'est pas un facteur qui va encourager la natalité. Et puis, il y a des causes plus conjoncturelles sur lesquelles on peut peut-être agir un peu plus facilement. C'est la baisse du niveau de vie, le chômage, l'inflation, la crise du logement. Alors tout cela signifie-t-il, c'est pas très encourageant, que la crise de la natalité est une fatalité? Alors je ne le crois pas, et je ne le crois pas pour la raison suivante, c'est que en France, où le taux de fécondité n'est donc que de 1,6 enfants par femme, le désir d'enfant, c'est-à-dire le nombre d'enfants objectivement souhaités par les Français et les Françaises, est de l'ordre de 2,3 enfants par femme. Voilà, les Français souhaitent en moyenne 2,3 enfants, d'après des enquêtes comme celle de l'UNAF qui s'appelle « Désir d'enfant ». C'est donc un taux qui est supérieur au taux de renouvellement des générations de 2,1 enfants par femme. Il suffirait donc, si j'ose dire, pour remédier à cette crise, il suffirait donc de garantir aux femmes ou aux familles la liberté d'avoir le nombre d'enfants souhaités. Alors en quoi pourrait consister une telle politique? Eh bien, ce serait tout simplement la mise en place ou la remise en place d'une politique familiale digne de ce nom. Politique familiale, je le rappelle, qui consiste à faire en sorte que le pouvoir d'achat d'une famille, quels que soient ses revenus, ne soit pas ou ne soit pas trop pénalisé par l'accueil d'un ou de plusieurs enfants. D'où les allocations familiales et le système du quotient familial. Autrement dit, le critère de la politique familiale, c'est le nombre d'enfants à charge. Elle se distingue donc, cette politique familiale, en principe, d'une politique sociale, qui est importante, mais qui est une politique de redistribution des revenus pour combattre les inégalités sociales, ou certaines difficultés temporaires, comme le chômage. Or, depuis un certain nombre d'années, et notamment depuis 2014, sous l'impulsion de François Hollande, la politique familiale a été finalement dénaturée et confondue avec une politique sociale par la mise sous condition de ressources des allocations familiales et le plafonnement du quotient familial. Alors, concrètement aujourd'hui, comment pourrait-on faire en sorte que l'on puisse favoriser de nouveau la natalité, de telle sorte que le désir d'enfant de 2,3 enfants par femme puisse devenir éventuellement, si possible, une réalité? Il y a quelques mesures de bon sens qui pourraient être envisagées, qui doivent être considérées non pas comme un coût, mais comme un investissement pour l'avenir. En particulier, bien sûr, rétablir l'universalité des allocations familiales, faire en sorte qu'elles ne soient plus soumises à des conditions de ressources qui pénalisent notamment en grande partie les classes moyennes. Ce serait une mesure de justice, mais aussi permettre aux familles ou aux femmes de concilier au mieux vie familiale et vie professionnelle. Parce que le problème du mode de garde des jeunes enfants est un des obstacles principaux pour l'accueil d'enfants aujourd'hui. La Cour des comptes vient donc de remettre un rapport fin 2024 dans lequel elle préconise de rallonger d'un mois le congé maternité et de mieux indemniser le congé parental qui est inférieur actuellement à 450 euros par mois. Ce serait plus judicieux certainement d'ailleurs que tout miser sur le développement très coûteux de crèches. Et puis il y aurait une politique de logement plus adaptée aux besoins des familles qui pourrait être mise en place. Le sujet est tabou, mais on pourrait tout à fait aussi envisager d'aider les femmes en difficulté à garder leur enfant par une politique de prévention d'avortement, car il faut rappeler qu'il y a tout de même plus de 220 000 avortements par an dans notre pays. Et d'une façon plus générale, comme le préconise d'ailleurs le pape François lui-même tout récemment, il serait important de valoriser culturellement la maternité et la famille, qui sont un signe d'espérance et de foi en l'avenir.
Merci beaucoup Olivier Drapé, nous vous retrouverons le 20 février, merci.
Merci.
Avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.